Salut Eric, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même, Dan.
Oui, merci, ça va bien. Ah, Eric, il faut vraiment. Ma première question va concerner le match de mardi contre les Islanders parce que j'ai eu le bonheur avec des chums d'aller au Centre Bell et j'étais assis dans la première rangée derrière le banc des Islanders. Fait que tu comprends-tu que j'ai vu Johnny Boychuk changer de paire de gants à chaque chiffre parce que le soigneur est là avec son petit séchoir, puis il remet l'autre paire sur le séchoir, puis lui, Boychuk, il a un toc, là, il veut tout le temps jouer avec des gants secs. J'ai vu un paquet d'affaires le fun. Mais au niveau du coaching, j'ai une question pour toi. D'abord, sur le nombre d'individus derrière un banc de la Ligue nationale, puis après ça, tu vas voir que dans un match de hockey mineur hier, j'ai fait un autre constat, mais je vais arriver au hockey mineur plus tard. Est-ce que quatre entraîneurs, incluant Barry Trotz, donc Barry Trotz, l'entraîneur-chef, et trois autres adjoints, est-ce que c'est raisonnable en 2019 ou tu trouves ça trop?
Moi, je trouve un peu trop. Honnêtement, là, je comprenais très bien la formule à trois. Je trouve à quatre, quand je regarde les coachs en arrière du bain, ils n'ont pas l'air d'être capables de bouger.
Ouais,
quand ils ont à parler à tout le monde, puis rapidement d'aller parler, parce que tu as le droit comme coach d'aller parler d'une extrémité à l'autre du bain. Puis je trouve que en plus, les bains sont de moins en moins grands. Hein. Tu remarqueras qu'à chaque place où ils ont pu les couper pour être capables de rajouter une coupe de bains payants,
ben oui.
Et ils coupent les bains. C'est quand tu regardes ce qui se passe, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu regardes en plus le paquet de traîneurs, puis le paquet de gars d'équipement, puis tout ça, puis le soigneur, mais il y a des équipes, des fois, tu as l'impression qu'ils sont plus en arrière du banc que sur le banc. Fait que moi, je trouve que c'est, au niveau des entraîneurs, j'ai un peu la même réflexion que toi. Ça, moi, personnellement, je trouve que 4, c'est beaucoup.
Okay.
Je suis pas sûr que comme entraîneur, tu es aussi actif quand tu es 4. Je préfère à ce moment-là que tu en aies 3, puis un sur la galerie de presse, t'envoies de l'information, il y a différentes méthodes. Philadelphie, eux, envoie un gars la période, deux périodes en haut, il vient descendre la troisième période. À un moment donné, je comprends que tu veux impliquer tout ton monde, mais au bout de la ligne, sur le banc, moi, je trouve que les entraîneurs ont l'air figés en arrière du banc, puis pas trop d'espace pour bouger.
Ouais.
Donc, pas beaucoup d'espace pour bouger, tu donnes moins de feedback aux joueurs. Fait que c'est pour ça que ça me dérange un petit peu.
OK. À la télé ou sur place, j'ai déjà vu des entraîneurs avec une espèce de petit, pas un petit calepin, mais une petite feuille pliée en 3-4, là, prendre des notes sur certaines situations. Et je me suis toujours demandé, ils écrivent quoi sur ce feuille-là? Puis là, j'étais en arrière du banc, première rangée, Eric. Tu comprends-tu? Tu me connais? Je suis curieux un peu. J'ai dit, je vais toujours bien regarder l'entraîneur adjoint, il prend quoi comme note? Puis, il a barbouillé un paquet de numéros de joueurs. Mais je me disais, faut que je demande à Eric, les gars écrivent quoi là-dessus?
Mais un, là-dessus, sur ce carton-là, tu as l'alignement des deux équipes. Avant que ta partie commence, tu es toujours en train de te poser la question qui tu vas jouer contre qui tu vas affronter, qui tu vas mettre contre tel trio.
Okay.
Ce qui fait qu'au bout de la ligne, tu es en mesure de regarder si tu es capable de faire tes ajustements. Ce qu'ils écrivent sur le carton, ça va souvent être... une mise au jeu importante dans le coin de la patinoire, est-ce que je me retrouve en position que Dano gagne sa mise au jeu du côté gauche contre tel joueur? Des informations que tu n'as pas dans le match complètement.
Okay.
L'autre chose, tu vas prendre des notes sur, il y a un revirement pendant le jeu, revirement à ligne bleue, on avait demandé au joueur de ne pas faire ça, vient de faire une erreur, je veux le prendre en note parce que tout de suite, en arrivant après la période, où je vais demander à mon gars de vidéo, sors-moi le jeu qui est arrivé à 7 minutes 43 pour être capable de voir le clip. Faut que je le monte vite aux joueurs, ou faut que je le monte à l'équipe au complet, ou faut que je le monte à mon coach en chef. C'est que c'est souvent des éléments comme ça qui vont être pris en note. Et en plus, évidemment, si tu vois une coupe de grosses tendances de l'autre équipe dans le jeu, mais là, dans cette position-là, tu vas dire à tes joueurs, à ton coach entre les périodes, en préparation d'un, parce que tu as un petit meeting entre chaque période.
Ouais.
Donc, ça va être des notes qui vont te servir pour ton prochain discours auprès des joueurs.
OK, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a des séances vidéo entre les périodes.
Ah oui. C'est pour ça que de plus en plus, tu as des équipes qui, ils ont toutes deux gars de vidéo qui s'occupent de ça. Mais dès que tu finis ta période, tu vas voir les coachs adjoints aller voir le gars de vidéo.
Okay.
Tu vas dire, sors-moi les deux revirements qu'il y a eu à ligne bleue. Et là, quand le coach, souvent, ça va être les coachs adjoints qui vont arriver dans la chambre, qui vont dire, hey, les gars, regardez deux, trois séquences, bang, bang.
Okay.
Faites attention à ça. Et après ça, le coach va revenir avec ses consignes. Mais oui, il y a encore des séances vidéo. Et il y a aussi, avec les iPads aujourd'hui, toutes les questions de séances vidéo individuelles. tu vas faire venir le gars vite dans le bureau, ou tu vas aller voir le gars avec l'iPad, puis tu vas montrer la séquence que tu vas avoir pris en note, justement.
OK. Parce que pour être déjà allé jouer au Centre Bell comme joueur pour une promotion organisée avec les gens de Molson, j'ai vu que derrière le banc, il y a des écrans de télé pour permettre aux entraîneurs d'avoir les reprises. Mais plus que ça, cette semaine, Eric, j'ai vu les entraîneurs adjoints des Islanders manipuler des iPads qui sont fournis par la Ligue nationale, même qu'aux entraques, il y a des employés de la Ligue nationale qui sont venus vérifier les iPads en question pour être sûr que tout fonctionnait bien. Ça veut dire qu'en temps réel, les entraîneurs ont accès à des reprises vidéo de certaines séquences, là.
Tout à fait. C'est la nouvelle réalité. Et ça a beaucoup parti, tu vas te rappeler, avec Ron Wilson à San Jose. Il était le premier, là, il y a 7-8 ans, qui avait amené ça derrière le banc.
Okay.
À savoir que il faisait de l'intervention individuelle. Ses adjoints faisaient beaucoup d'interventions individuelles directement sur le banc avec les joueurs. C'est okay. qu'on est rendu à un autre niveau. Et oui, les équipes ont tous ces systèmes vidéo-là aujourd'hui qui font en sorte que tu vois de plus en plus les joueurs sur le banc qui vont regarder des séquences pendant le match. C'est qu'au bout de la ligne, tu vois que les gars sont... C'est pour ça qu'on dit souvent que le hockey devient plus défensif, puis on ouais. travaille plus à contrer l'équipe adverse qu'à trouver des façons de marquer.
Ouais.
Ça, c'est des éléments qui, comme entraîneur, c'est plus facile de montrer à un joueur qu'est-ce qu'il doit faire pour contrer l'adversaire. Et par le vidéo, c'est le meilleur outil. Des fois, tu vas me dire trop. Oui, c'est vrai, mais c'est la réalité du hockey 2020 où ce que le vidéo est utilisé de plus en plus. Et tu veux surtout aussi faire beaucoup de correctifs individuels. L'avantage de ça sur le banc, là, c'est que tu es en mesure de faire beaucoup de correctifs individuels. Entre les périodes, tu vas être en mesure de montrer des séquences qui font des corrections collectives. Mais au niveau des corrections individuelles, sur le banc, c'est facile de le faire avec les joueurs.
OK. Dans les dernières semaines, Eric, dans la Ligue nationale, il y a eu 3 changements d'entraîneur. D'abord, Mike Babcock à Toronto a été remplacé par Sheldon Keefe. C'était le gars de la Ligue américaine. Il était déjà convoité par d'autres équipes. On l'a amené. Puis, ça va être leur homme pour... on espère que ça soit leur homme pour une couple d'années. Bill Peters, totalement différent. Peters, allégation... On le met à l'écart. Finalement, il décide d'abandonner. Ça devait être d'un commun accord. On a dû lui suggérer d'abandonner son poste d'entraîneur-chef. Et là, on a nommé Jeff Ward, probablement par intérim. Au New Jersey, par contre, on tasse M. Hines, on met Alain Nasreddin. J'ai rien contre Nasreddin, qui est un gars de Montréal, qui était là comme adjoint depuis quelques années. Mais on dit Nasreddin va être là sur une base intérimaire. Ça, est-ce que ça veut dire que Ray Shero il était pas trop prêt à tosser son coach, puis il s'est fait prendre de court malgré que les Devils sont ribs depuis le match 1 de la saison, ou le gars qu'il aurait voulu avoir est pas disponible pour l'instant?
Non, je pense pas que ce soit parce qu'il était pas prêt. Le club allait tellement mal, ça c'est surtout qu'il a été congédié le lendemain d'une défaite cuisante. Je pense qu'il était rendu. Je pense que Rich Hero a surtout découvert que son club a pas de chance de faire les séries, va okay. être dans la course pour Lafrenière.
Okay.
Et ceux qui vont avoir des candidats disponibles à la fin de l'année, quand même, tu créeras un électrochoc à New Jersey, là, je pense pas qu'ils vont faire les séries cette année.
Non.
C'est que je pense qu'ils se disent, on a Alain Nasreddin, que je connais parce que je l'ai coaché dans la Ligue américaine ici à Québec. Tu te dis, on va lui donner la chance, ça fait 10 ans qu'il est dans l'organisation, mais il a jamais coaché en chef, là. C'est que c'est vraiment un intérim qui a été donné. À moins de causer un miracle d'ici la fin de l'année, puis qu'il y ait une fin de saison exceptionnelle, comparativement à Bérubé à Saint-Louis l'an passé, qui lui avait déjà été coach en chef dans la Ligue américaine, Alain, il l'a pas été, lui. Ce qui fait en sorte que, oui, c'est par intérim, je pense que New Jersey sont au courant qu'ils s'en vont nulle part, ils sont déjà pris avec le dossier de Taylor Hall, puis ça, c'est déjà un dossier qui est, quand tu regardes en quoi va ressembler l'équipe, puis vont-tu l'échanger, vont-tu prendre un virage complet dans une autre direction pour bâtir autour de Hughes, leur premier choix de l'an dernier. Mais au bout de la ligne, ils savent que cette année, il arrivera rien.
Okay.
Je pense qu'il n'y a pas de presse, lui, à se dire, je vais engager un nouveau coach, je verrai ce qui est disponible, puis on le fera au courant de l'été. Ça, je pense que c'est une situation différente dans ce sens-là, parce que le club va tellement mal que ce serait quasiment impensable qu'il puisse revenir. Puis c'est pas un club qui était bien coté, là. Parce que de plus en plus, là, c'est à la mode qu'on essaie de comparer à Saint-Louis l'an passé.
Ouais.
Et Louis, l'an passé, c'est d'autres choses, là. C'était un bon club qui performait pas.
C'est un petit miracle. Oui, il y avait du talent à la base, je te rejoins.
Oui, c'est ça. C'est comme c'est Toronto cette année. Il y a eu un changement de coach. C'est un bon club avec qui on souhaite qu'il y ait un revirement de situation, un électrochoc avec les changements. C'est différent. Tandis que New Jersey, C'est comme on vient de constater qu'on s'en va nulle part. Ça fait longtemps que coachait pour nous. On va créer un changement, puis on va prendre notre thème, décider qui va coacher. Puis tant mieux si le gars par intérim fait la job, ouais. Il nous forcera à réfléchir si on lui donne la job. Mais je pense qu'après ma base, c'est pas ça le plan. Là.
OK, parfait. L'Avalanche de Bac au Centre Bell ce soir. Ils ont dans leur équipe probablement le deuxième attaquant le plus explosif de la LNH après Connor McDavid, c'est Nathan MacKinnon. Par contre, ils ont également Kyle Makar, qui est un jeune défenseur recrue de 21 ans, qui arrive des collèges américains, et qui avait été un choix de première ronde, quatrième au total il y a quelques années. Et lui, Makar, a 27 points en 27 matchs. Donc, je suis pas obligé d'expliquer rapidement aux auditeurs ce soir que c'est un gars très offensif. Comme entraîneur, est-ce qu'on réussit ou est-ce qu'on essaie de contrer un attaquant explosif et talentueux comme MacKinnon de la même façon qu'on va essayer de contrer un défenseur offensif comme Makar?
Comme entraîneur qui joue contre ces gars-là, ce que tu veux, c'est de t'assurer de dire à tes joueurs que quand ils sont sur la glace, il faut être encore plus efficace en unité de 5. C'est plus du marquage individuel de dire on va surveiller MacKinnon ou on va surveiller Makar. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer de faire en sorte qu'en unité de 5, on porte une attention particulière à ces gars-là quand on se retrouve à jouer contre eux autres. Il faut être conscient, c'est quand tu vas embarquer tes joueurs, on sait que tu essaies toujours de mettre tel trio, contre un autre trio. De la même façon, là, tu vas leur apporter une attention particulière en plus de dire aux gars qui sont sur la glace, si vous êtes sur la glace en même temps que ce défenseur-là ou en même temps que ce trio-là, va falloir que vous soyez encore plus attentifs parce que voici leur tendance. Ils vont utiliser tel défenseur qui va rentrer dans le jeu où on va avoir tendance à lui donner la rondelle dans le coin. Il donne la rondelle à partir du coin et la donner à la ligne bleue que c'est là qu'il va prendre un lancer ou quoi que ce soit. C'est toutes des tendances où quand tu as des joueurs d'exception contre ça, comme ça qui jouent contre toi, il faut que tu sois en mesure de t'assurer que tout le monde est très conscient du danger et porte une attention encore plus particulière. C'est que c'est là qu'on parle de concentration, c'est là qu'on parle de focus, c'est là qu'on parle de détails. Et ça, ça vient dans la préparation d'avant-match. Probablement que le Canadien va déjà en avoir parlé ce matin. Ils vont s'en reparler ce soir, puis ils vont faire en sorte de montrer des séquences, de dire voici ces tendances, voici ce qu'ils font. Vous pourrez pas nous dire que vous savez pas ce qui s'en vient. C'est que soyez alerte, puis soyez encore plus concentré. C'est ça, jouer contre les meilleurs. C'est être encore plus concentré pour éviter qu'ils prennent avantage de leur talent.
OK. Mardi, c'était Olofsson. Ce soir, ça va être Leskinen. Est-ce que toi, comme observateur hockey puis comme coach, tu souhaiterais que Bergevin donne à Claude Julien rapidement. Là, il y a des rumeurs avec Gossisbert et les Flyers. Peu importe le nom du joueur, ça peut être Alec Martinez des Kings. Est-ce que tu souhaiterais arriver rapidement un défenseur de calibre LNH évoluer avec le Canadien?
Ils n'ont pas le choix. S'ils souhaitent vraiment, ils n'ont pas le choix. Quand même qu'ils amèneraient les Suédois, les Finlandais que tu viens de me nommer, qui viennent... Une coupe de match. Pour dans le fond, on est comme là pour évaluer leur talent. Le gars ne domine pas dans la Ligue américaine, il n'est même pas super efficace dans la Ligue américaine pour lui donner une chance parce qu'on a un trou. J'espérais que tu me nommes que la rumeur parce que Philadelphie, je crois pas vraiment à la rumeur. C'est pas nécessairement le genre de joueur. Moi, je pense qu'il faut, puis je le fais plusieurs fois, j'en parle, faut aller chercher un gars comme Scandella. Ça prend un autre défenseur qui va prendre des minutes comme Chariot en prend présentement. Faut grossir puis améliorer notre côté gauche. Que si tu avais un autre bon défenseur gaucher puis que Mété tombe sur une troisième paire, là, tu commences à être en business en arrière. Si ton goaler est capable de faire les arrêts, ton gardien fait les arrêts, on sait que le Canadien a un bon côté droit. Si tu as un bon côté gauche à la défense en ajoutant un défenseur d'expérience comme Scandella, mais au bout de la ligne, tu vas avoir... Ce qu'on a donné comme minutes là, dans les dernières semaines, dans les derniers matchs à Chariot, des 27, 28, 30 minutes de jeu, mais il faut que tu en enlèves 5-6 puis trouver un autre défenseur gaucher qui tu vas en donner 25 pour que Mété puisse en jouer 17, 18, 19, 20 quand il va revenir au jeu. Okay. Là, le Canadien va pouvoir commencer à penser, de dire, dans notre zone, on est plus efficace puis on sort mieux à rondelle, puis ça paraîtra moins qu'on n'est pas très gros à l'attaque. Okay. Ça urge, à mon avis, qu'on puisse trouver un autre défenseur d'expérience. Pas un défenseur à 1 million qui va être un 6-7e puis on va jouer à rotation avec les autres. Là. La gang à Kulak et compagnie, ils sont bien gentils, ils sont bien fins, mais c'est des 6-7e. Là. Un soir, il joue pas assez bien, c'est un 7e, tu dis « j'aimerais mieux pas le voir dans le line-up », puis quand il joue bien puis il fait pas d'erreur, tu dis « ah, oh, j'ai eu un bon 6 aujourd'hui ». Mais avec des bons 6, tu fais pas des bons 4.
Non.
C'est que, bout de la ligne, ça fait que t'as des difficultés certains soirs, puis tu arrives en troisième période, tu te fais remonter. C'est pour ça que je pense que ça prend un autre défenseur rapidement si le Canadien espère solidifier leur façon de jouer.
OK. Puis Chiarot, qui joue 29 minutes, on s'entend que c'était pas ça le plan. D'après moi, à partir de la 20e minute, il est payé 1,5, lui.
C'était pas... T'as raison, mais c'était pas ça le plan, mais il joue bien.
Oui, oui. Mais
sauf que là, ils ont joué 3 games en 4 soirs, puis il a été surutilisé.
De l'overtime,
ça a bien fait, il était d'une bonne séquence, sauf que dans un mois, il va payer le prix, parce que les minutes qu'il a joué de trop présentement, mais la fatigue va prendre. Un peu comme Canadien, un peu comme Price. Price, on dit, il n'y a pas de danger, il ne se blesse pas, puis je suis le partisan, là. J'ai souvent été un one-goalie coach, puis trop joué mon premier gardien.
Okay.
Mais quand tu le joues trop, on voit Price, il est moins affamé, là. Mais moins affamé, c'est parce que je pense qu'il est plus fatigué.
Okay.
Il pratique pas.
Okay.
Puis quand il est assis, des fois, puis tu prends du recul, ça te permet de revenir plus affamé. Mais là, il joue trop, puis il n'y a pas de backup. C'est qu'en n'ayant pas de substitut, ils sont obligés de le jouer tout le temps.
Ouais.
Je blâme pas Claude Julien. Je l'aurais joué aussi souvent, sinon plus, à date.
Okay.
Parce qu'il n'y avait pas de deuxième. Sauf qu'au bout de la ligne, il faut qu'avec les défenseurs, ils fassent attention de ne pas arriver avec la même problématique, puis que les gars soient fatigués au mois de janvier-février, quand ça va compter encore plus.
Mais je trouve ça bizarre que tu dises qu'il n'y a pas de substitut chez le Canadien, parce qu'au début de l'année, l'animateur avec qui tu collabores chaque jeudi, t'avais parlé en bon état et en grand bien de Kate Kincaid pourtant.
Oui, mais l'animateur principal est un fan numéro un de Kim Kincaid. Puis il était fâché après moi que j'ai semé le doute de dire attends, ben je le trouve croche,
ouais,
j'ai vu un
j'en
peu
plus reluquant.
Puis là, je veux pas que tu me dises j'ai eu raison, mais je pense que là-dessus, si j'avais le temps, je t'enverrais plus de textos pour te dire que je pense que tu t'es trompé sur Kincaid, mon dame.
Je suis pas obligé de dire que t'as eu raison. Je pense que les gens peuvent faire leur déduction très facilement. Un gros merci, Eric. Hey,
c'est moi qui te remercie, Dan.
Petite parenthèse, parce que j'ai dit au début de l'entrevue qu'on allait parler du hockey mineur à la fin, mais on n'en parlera pas. On en reparlera la semaine prochaine. Je veux juste te dire que j'arbitrais plusieurs matchs cette semaine. C'est le tournoi Pee-Wee de Sainte-Foy, mais comme à Sainte-Foy, il n'y a pas d'aréna actuellement parce que c'est plus viable, puis à l'aréna de Sainte-Foy, on fait des rénaux, ben, le tournoi se passe à l'aréna de Val-Bélair. Petite parenthèse pour toi et pour Ferrel, les auditeurs à l'écoute, j'ai fait un match Pee-Wee 2B cette semaine, il est à 5 à l'arrière du banc.
Je crois que c'était 5 parents, puis ils voulaient avoir les meilleurs billets pour le match.
Mais non, 5 jeunes.
Du monde, pas à peu près. Je suis d'accord avec toi, c'est pas mal de monde.
5 jeunes passionnés, puis honnêtement, je leur lève mon chapeau parce qu'ils mettent du temps pour leur hockey mineur. Mais 5, je trouvais ça beaucoup.
C'est beaucoup. J'espère juste qu'ils se sont répartis les tâches comme il faut pour être sûr qu'ils utilisent tout leur talent au profit des jeunes, puis de donner du feedback au maximum pour que les jeunes en profitent. Mais 5, tu sursautes, moi aussi, je trouve que c'est beaucoup de monde.
Parfait. Bonne soirée, Eric.
Salut, Dan.
Merci à toi.